chez mes parents pendant l'été, en général, j'ai des lectures très instructives. Je lis Voici, Gala, Paris Match et tous les autres magazines People que ma maman a gardés pour les lectures à la plage. Mais en même temps, elles sont vraiment instructives, ces lectures. Ça me permet vraiment de me tenir au courant de ce que des préoccupations de la société au moment même où je lis. Par exemple, je peux vous dire qu'en ce moment, les questions existentielles que se posent ces magazines, c'est comment avoir un ventre plat en bikini l'été? Et dans chacun de ces articles, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre une très belle femme qui, de toute façon, n'a pas besoin de l'article parce qu'elle a déjà un ventre plat. Ce qu'ils oublient de nous dire, bien sûr, c'est qu'en fait, cette jeune femme, elle est sans doute photoshopée avec ce logiciel informatique qui lui permet de retrouver un ventre tout plat et tout beau, mais qu'elle n'est sans doute pas comme ça dans la vraie vie. Et qu'est-ce qu'on fait face à ce genre d'article? Que font les femmes? Eh bien, les femmes, en général, elles se comparent. Et puis, elles regardent le ventre plat d'une jeune femme qui est en photo. Et tout d'un coup, elle pense à tous les sacrifices qu'elles vont devoir être obligées de faire pour pouvoir aller sur la plage cet été. Bon, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais et que font les hommes devant un tel article, je vous demande? Eh bien aussi, ils comparent le ventre de leur femme avec le ventre de... Je caricature à peine, hein. Est-ce que ce n'est pas le combat que nous livrons tous finalement? Passer notre vie à nous comparer les uns avec les autres. Est-ce que c'est ce combat, ce n'est pas celui d'arriver et de vouloir à tout prix exister dans le regard de l'autre? Et où suis-je dans le regard de l'autre? Est-ce que je suis haut placé ou est-ce que je suis bas placé dans le regard de l'autre? C'est même, je dirais, notre obsession d'être humain. Savoir ce que les gens pensent de nous, et tout faire pour qu'ils aient une haute opinion de nous-mêmes. On vit une certaine forme de compétition permanente, finalement, dans notre société. Compétition qu'on se livre les uns envers les autres, avec les autres. Dans le récit de ce matin, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit de paroles disparates de Jésus, qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, mais on va voir que ce n'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Le but de Jésus va être simple, c'est toute une question de combat. Il va nous montrer, avec deux petits récits avec ses disciples, il va d'abord nous montrer que le but n'est pas d'exister dans le regard de l'autre, mais plutôt de faire exister l'autre dans notre regard, ce qui est complètement différent. Et ensuite, il va nous montrer que le vrai combat, il n'est pas contre les autres, dans une compétition permanente, mais contre nous-mêmes. Et que ce qui compte, ce n'est pas le verdict que posent les autres sur nous, mais le verdict que va poser Dieu sur nous. Et donc, comment il va considérer notre propre péché? Et que faisons-nous de notre propre péché? Ça va être ça l'enjeu de tout le propos de Jésus ici dans ce passage. On va d'abord voir les préoccupations des disciples, ça sera la première partie, et on verra ensuite les préoccupations de Jésus, et on va voir comment on va prendre cher. Donc, exister dans le regard de l'autre. On se trompe de combat. Le vrai combat, c'est de faire exister l'autre dans mon regard et de s'intéresser plutôt au verdict des autres. Premier point. Pardon? Je me suis trompé. Vous avez corrigé. Le premier point. Les préoccupations des disciples, nos préoccupations à nous. Eh bien, nos préoccupations, elles relèvent d'un faux combat. Et ce faux combat, c'est qu'en fait, on se bat contre les autres. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est les disciples, ils se sont comparés les uns avec les autres, ils voulaient savoir qui était le plus grand en interne, et ils se sont aussi comparés en externe avec cet homme qui exorcisait sans faire partie de leur groupe. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. D'abord en interne. En interne, qui est le plus grand? Voilà pourquoi ils se taisent quand Jésus leur demande ben, qu'est-ce qu'ils bricolaient, de quoi ils parlaient sur le chemin de Capernaum. Finalement, ils ont honte. Ils ont honte, mais c'est ça qui se posait comme question sur le chemin de Capernaum. Qui est le plus grand? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se posaient cette question-là? Ben, les disciples sont 12, comme le nombre de tribus d'Israël. Alors est-ce que ça leur était monté un peu à la tête, tout ça? Est-ce qu'ils en éprouvaient de la fierté? Ou alors, vous vous souvenez de la dernière fois, Il y en avait 9 qui étaient restés en bas et ils venaient de rater un exorcisme sur un enfant qui était malade. Et il y en avait 3 qui étaient montés sur la montagne avec Jésus pour voir la gloire de Jésus. C'était la fameuse transfiguration. Et donc, est-ce que c'est les trois qui ont vu la gloire de Jésus contre les 9 qui ont raté leur exorcisme? Et donc, pour le coup, ils se demandent, c'est qui le plus grand? Oh, c'est nous les 3 qui étions avec Jésus sur la montagne. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça serait plutôt de savoir qui va prendre la place de Jésus? Parce que Jésus, c'est déjà par deux fois, il leur a annoncé sa mort. Alors, est-ce que c'est ça qui commence à faire le bout de chemin dans leur tête? Et ils se disent, OK, Jésus va mourir. Qui c'est qui va prendre sa place? Ah, c'est moi. Non, voilà. Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Il y aurait tellement de raisons pour les disciples de se poser cette question-là, mais le texte n'en dit rien. Mais en tout cas, la concurrence a l'air d'être là. Et ça, c'est une question qui nous concerne tous. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de revenir dessus ou si vous en êtes tous convaincus que c'est vraiment une question qui nous concerne tous, qui est le plus grand. C'est bon, je développe un peu ou vous êtes convaincus avec le loup, avec... qui a le meilleur salaire? Est-ce qu'on joue à savoir qui est-ce qui a la plus grosse télé chez soi? Le plus bel écran plat placardé contre son mur? En ce moment, qui a eu la meilleure note au bac, peut-être? La meilleure mention? Alors, peut-être, ça c'est c'est le monde extérieur, mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça en Église. Absolument pas. Si. Est-ce que notre désir de trouver notre place au sein de l'Église... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un désir légitime. C'est légitime. Vous vous souvenez de cette année, on a vu l'Église comme corps. C'est la dernière image en bas. Et si l'Église est comme un corps, eh bien, on a chacun notre place en fonction des dons qui sont les nôtres. Alors, c'est légitime de trouver notre place. Mais en même temps, ce désir à tout prix de trouver et de prendre notre place, est-ce que ça ne relève pas aussi, d'une certaine façon, de « je veux ma place, c'est moi, quoi ». Désir inconscient d'être valorisé pour qui nous sommes. Et même nous, les pasteurs, est-ce qu'on ne se compare pas les uns avec les autres? Je me suis demandé, mais je pense que oui, vous devez me comparer sans aucun doute avec Flavien Negrini, avec Eric Vanderdoos, vos pasteurs. Je crois que c'était qui avant? J'ai oublié. Pardon? Non, avant Flavien. Il y a... Carrel? Et ce désir de savoir qui est le plus grand, eh bien en fait, il est juste inapproprié. Parce que si on remonte le fil de ce que nous avions vu la dernière fois, qu'est-ce qui précède notre passage? La deuxième annonce de la mort et des souffrances de Jésus. Jésus vient d'annoncer sa mort et ses souffrances, et que font les disciples? Ils frient, mais ils se gaussent pour savoir qui est le plus grand. C'est lamentable, lamentable. Il vient de parler de son abaissement, et eux ne pensent qu'à leur élévation. Alors Jésus, il utilise... Ah mince, mais je me demande si j'avais pas des... Non, tout à l'heure. Jésus, il utilise cette opportunité pour leur enseigner ce qu'est la vraie grandeur. Je vous relis le passage, versets 35 à 37. « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit... Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jésus, il redéfinit la vraie grandeur ici. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, la vraie grandeur, c'est pas ce que les autres pensent de moi, mais c'est ce que moi, je pense et fais pour les autres. C'est ça que nous dit Jésus. La vraie grandeur, c'est pas vouloir exister dans le regard de l'autre, c'est de faire exister l'autre dans mon regard. Et l'exemple que Jésus utilise, il est parlant. Il prend un tout petit enfant. Alors, forcément, on a un travail de contexte à faire, parce que à notre époque, prendre un tout petit enfant, l'enfant est devenu le roi partout dans notre société. Mais à l'époque de Jésus, c'est le contraire. À l'époque de Jésus, l'enfant, il est rien. Il est juste une bouche de plus à nourrir. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il soit suffisamment grand pour aller travailler et pour ramener de l'argent. L'enfant, il est rien à l'époque de Jésus. Donc, si Jésus prend quelqu'un qui n'est rien et qui le met au centre et qui dit « si vous voulez être grand, servez-le ». Voilà ce que nous dit Jésus. Il redéfinit véritablement la grandeur pour nous. Alors on en est là. Si tu veux être grand, eh bien, il faut juste arrêter de tout ramener à toi-même. Il faut arrêter d'être obsédé par le regard des autres. Il faut arrêter de penser à ce que pensent les autres à ton sujet. Mais juste au contraire, regarder les plus petits, les plus faibles. Ceux qui ne peuvent rien t'apporter en retour, parce que c'était ça un enfant à l'époque. Et se mettre à leur service. C'est comme ça qu'on se met au service de Dieu et qu'on fait quelque chose qui est grand. Donc ça, c'était en interne. Et on va voir qu'en interne disciple, ce sont ça les préoccupations. On va voir maintenant en externe. Eh bien, en externe, pas de bol, c'est exactement la même question qui se pose. L'apôtre Jean, le disciple Jean que Jésus aimait, il était convaincu d'avoir le monopole de l'exorcisme. Verset 38. « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne te suit pas. » Quel est le souci ? Quel est le souci pour Jean ? Ben, parce qu'il ne nous suit pas. Jean ramène tout à lui. Il va nous faire de l'ombre, ce gars, s'il continue. Alors faut le ramener, quoi, faut le faire taire. Qui est le plus grand ? Mais c'est nous les plus grands exorcistes. On a Jésus qui nous a envoyés faire des exorcismes. Voilà le raisonnement de Jean. Ce n'est pas la soif de la gloire de Dieu qui l'anime, Jean. C'est plutôt la peur que cette personne-là, cet exorciste-là, lui fasse de l'ombre. Il veut être le plus grand, Jean. Réponse de Jésus, verset 39-40. Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. La vraie question, selon Jésus, c'est pas de savoir qui est le plus grand, c'est pas de savoir si l'un va faire de l'ombre à l'autre. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on fait partie du même camp ou pas. Et la réponse de Jésus est sans appel. Il est avec nous, ce gars-là. Laissez-le exorciser. Il fait partie de notre camp. Qui est le plus grand ? Eh ben, la question, c'est pas de savoir s'il nous fait de l'ombre ou pas. La question, c'est de savoir qu'il est bien dans notre camp. Alors c'est vrai, il y a ce verset 40, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde, pour le coup, est dans le même panier ? Il y a aussi le verset 42. Écoutez ça. Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Ça veut dire que tout ce qui se revendique chrétien ne l'est pas forcément. Jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans le « il n'est pas contre nous, donc il est avec nous » Jusqu'où on doit aller ? Eh bien, jusqu'à là, nous dit Jésus, celui qui fait tomber dans le péché un plus petit. Ça, c'est pas bon. Jésus n'est pas tendre avec ceux qui égarent les autres en son nom. Alors, c'est vrai qu'il y a des organisations chrétiennes qui conduisent les gens dans l'erreur, qui conduisent les gens dans la confusion, peut-être même dans le péché. Celui qui fait trébucher l'autre au moyen de l'évangile va le payer très cher. Alors, je me suis creusé la tête, j'ai trouvé ça assez difficile de donner des exemples concrets de ça. Je me suis dit, peut-être que l'exemple des prêtres pédophiles dans l'Église catholique est un bon exemple, mais j'étais pas sûr. Je me suis dit peut-être, parce que d'une certaine façon, ils ont utilisé leur poste, ils ont utilisé leur ministère, ils ont presque peut-être même utilisé l'évangile pour faire ces atrocités sur les enfants. Et tout ça, aujourd'hui, ça contribue à jeter le discrédit sur l'évangile, jeter le discrédit sur Jésus-Christ. Et puis, plus globalement, combien de personnes ont rejeté Christ ? À cause d'un prêtre ou à cause d'un pasteur ? Combien de personnes ont rejeté Christ à cause d'un autre chrétien également ? Et là, vous voyez qu'on est tous concernés, pour le coup. Comment devrions-nous agir les uns envers les autres ? Jésus nous donne la réponse ici, verset 41. Si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Jésus nous encourage à nous accueillir mutuellement, le plus simplement possible, donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Et vous ne perdrez pas votre récompense, nous dit Jésus ici. Où en sommes-nous? Les disciples ont critiqué cet homme qui exorcise sans appartenir à leur groupe. Et Jésus leur montre que le principal, ce n'est pas d'avoir sa place dans l'organigramme de l'Église, mais c'est plutôt d'avoir une bonne motivation. Et la bonne motivation, c'est de bosser pour Christ, d'être à son service. Et plutôt que de se tirer dans les pattes, Jésus les encourage à se servir mutuellement. Même le plus petit service ne perdra pas sa récompense. Est-ce que nous, dans chacune des villes où nous habitons, est-ce qu'on ne fonctionne pas vraiment exactement comme ses disciples, à comparer notre église avec les autres églises qui nous environnent, plutôt que de se soucier de tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile et qui se perdent loin de Dieu? Les autres églises sont dans le même camp que nous, exactement comme cet exorciste-là était dans le même camp que les disciples. Ça, c'est le faux combat. Encore une fois, un faux combat pour la concurrence externe, cette fois-ci. Donc vous voyez, concurrence interne, concurrence externe, même combat, et c'est un faux combat. Et à partir du verset 43, cette fois-ci, Jésus ne va plus s'adresser en réponse à des préoccupations des disciples, c'est directement les préoccupations de Jésus qui vont nous intéresser. Et les préoccupations de Jésus, ben, c'est un vrai combat cette fois-ci, pas un faux combat. Et le vrai combat, il n'est pas à mener contre les autres, en interne ou en externe. Le vrai combat, il est à mener contre nous-mêmes. Et là, eh ben, c'est assez douloureux pour nous parce qu'il parle d'un thème dont on ne parle pas trop souvent en Église. Il parle de l'enfer, à plusieurs reprises, Jésus. L'enfer, ce n'est pas un mythe. Aujourd'hui, ça serait presque devenu un lieu cool où on peut amener ses saucisses pour faire un barbecue avec ses potes. En tout cas, c'est ce qu'on voit si vous tapez « enfer » caricature. Vous pouvez tomber sur des trucs assez rigolos sur Google. Mais quand on lit les paroles de Jésus, en fait, ça ne ressemble pas exactement à ça, l'enfer. Alors, on va aller relire ces paroles. Je vous invite à suivre avec moi. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Vous savez qui c'est qui parle le plus d'enfer dans la Bible? Jésus. Ce n'est pas un trip de l'apôtre Paul qui se serait planté. Hein. C'est Jésus qui parle le plus de l'enfer dans toute la Bible. Démonstration ici, à trois reprises. Et l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est tellement au-delà de notre compréhension que quasiment à chaque fois que Jésus en parle, il utilise des images pour nous aider à comprendre. Et là, elles sont deux, les images que Jésus utilise. Il utilise l'image du feu qui ne s'éteint jamais et l'image du ver rongeur qui ne meurt jamais. Quel est le point commun à ces deux images? Le point commun à ces deux images, ce sont les souffrances. Être dans le feu ou avoir un ver rongeur, c'est les souffrances. Et le deuxième point commun à ces deux images, c'est l'éternité. C'est que ça ne s'arrête pas. Le feu qui ne s'éteint jamais, le ver rongeur qui ne meurt jamais. Alors on se demande souvent, quand on réfléchit à l'enfer, de quelle souffrance s'agit-il exactement? Dans d'autres parties de la Bible, Jésus en parle avec d'autres images, je vous les cite. Il parle de pleurs, il parle de grincements de dents, et il parle d'amers regrets. Et l'apôtre Paul nous est d'une grande aide pour comprendre tout ça. Il dit deux choses qui sont cruciales. Il dit, un jour, tout genou fléchira devant Jésus. Et la deuxième chose qu'il dit, et qui est du même tonneau, il dit, un jour, l'univers entier sera réconcilié avec Dieu. Alors, comment est-ce qu'on comprend tout ça? Comment est-ce qu'on fait, qu'on met toutes ces images en place pour comprendre ce qu'est l'enfer? Eh bien, on se rend compte qu'en fait, l'enfer, c'est également un lieu où les êtres humains qui ont lutté toute leur vie contre Dieu seront réconciliés avec Dieu. Et comment seront-ils réconciliés avec Dieu en enfer? Eh bien, ils seront réconciliés parce qu'ils accepteront la justesse du jugement de Dieu contre eux. Quand on sera avec Dieu, on sera obligé, tout genou fléchira, celui des croyants comme celui des non-croyants. On fléchira tous le genou et on reconnaîtra que Jésus-Christ est bien, bel et bien Seigneur. Sauf que pour certains, ça sera dans la joie, parce qu'ils l'avaient déclaré pendant leur vie. Et pour d'autres, ça sera dans la peine éternelle, parce qu'ils le reconnaîtront. Ils ne le seront pas forcés, ils le reconnaîtront quand ils seront face à Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu durant leur vie. Et donc, eh bien, l'enfer, le châtiment éternel, c'est ce que les êtres humains ont désiré. Ils ont voulu vivre leur vie sans Dieu, eh bien, ils vivront l'éternité sans Dieu. Sauf que vivre l'éternité sans Dieu, ce n'est pas du tout aussi cool que cela n'y paraît. Le ver qui ne meurt pas, c'est le ver du remords éternel. Le feu qui ne s'éteint jamais, c'est le feu de la conscience de la culpabilité. L'univers entier, à ce moment-là, sera réconcilié avec Dieu. On dépeint souvent les enfers comme étant un lieu où le diable règne. C'est faux. Le diable sera le premier locataire de l'enfer. Le premier à reconnaître la seigneurie de Jésus et à fléchir le genou devant lui, mais à en payer les conséquences. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit cela? Est-ce qu'il est sadique, Jésus, de nous raconter ça comme ça? C'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Pourtant, personnellement, je considère ça comme une preuve d'amour de sa part. Exemple, deux exemples. Je ne sais pas si certains d'entre nous fument. Aujourd'hui, sur les paquets de cigarettes, il y a quoi? Il y a un poumon de fumeur. Est-ce que c'est du sadisme de mettre un poumon de fumeur sur les paquets de cigarettes? Moi, je considère que c'est l'amour. Ça nous aide à ne pas fumer nous-mêmes. Autre exemple. Aujourd'hui, le gouvernement, quand il fait une campagne de publicité contre les violences routières, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous montre des photos d'accidents. Il nous montre des photos de corps brisés. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous attend si on ne met pas la ceinture de sécurité, si on roule trop vite, si on est au volant de notre moto et qu'on ne met pas ni le casque, ni les gants, je crois que c'est obligatoire. C'est ça qui nous attend si on fait n'importe quoi de notre vie. Ben, Jésus développe les mêmes types d'images. Et c'est par amour pour nous qu'il développe le même type d'image. Parce qu'il ne nous veut pas comme ça, il ne nous veut pas là, à la fin des temps. Il nous veut l'éternité avec lui et auprès de lui. En général, d'ailleurs, par rapport aux campagnes de sensibilité contre la violence routière, qui sont les premiers à les faire? Eh bien, celles et ceux qui ont perdu des gens, des personnes, des enfants, des parents sur la route. Ce sont eux les premiers à aller au-devant des autres pour leur dire « Mais roulez moins vite, mettez votre ceinture, faites gaffe aux autres, regardez dans votre angle mort quand vous tournez, mettez votre clignotant, ça peut sauver une vie. » Si tu te retrouvais aux urgences et qu'on te disait qu'on allait te couper le bras, je suppose que tu ne serais pas trop chaud, ben moi non plus. Mais je suis sûr que si on me disait « Il faut te couper le bras, parce que sinon tu vas mourir », je suis sûr que je donnerais mon autorisation pour qu'on me coupe le bras. Ben, on en est là aujourd'hui. On en est là dans notre vie de tous les jours, avec Jésus. Si ta main est un sujet de péché pour toi, coupe-la. Si ton pied te fait courir dans le péché, coupe-le. Si ton œil te conduit à pécher, arrache-le et jette-le au loin, nous dit Jésus. Ce sont des images, n'allez pas faire ça et dire que c'est votre pasteur après qui vous a dit de le faire, hein, s'il vous plaît. Ce sont des images qui nous montrent la radicalité du choix qui est devant nous. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que si on tergiverse par rapport à notre propre péché, si on temporise par rapport à notre propre péché, eh ben ça montre une chose, ça montre qu'en fait, on aime plus notre péché que nous aimons Jésus. Ça montre que notre sécurité et notre plaisir ne sont pas en Jésus, mais sont plutôt dans le péché. Et que nous n'avons pas compris le danger mortel que ça représente. Et si Jésus nous choque, c'est pour que nous comprenions que c'est dangereux de continuer à vivre comme ça. C'est un peu comme si vous aviez votre maison en feu et que tout d'un coup, vous décidiez de retourner dans votre maison en feu pour prendre tel ou tel objet auquel vous tenez. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous teniez plus à ces objets-là qu'à votre propre vie. Alors on se trouve peut-être au bord du précipice ce matin. C'est peut-être, honnêtement, hein, c'est notre cas à tous. Hein. On a tous ce type de lutte. À quoi est-ce qu'on est accro? Qu'est-ce qui prend la place légitime de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on est accro à l'alcool? À la drogue? Au shopping? En fait, tout peut prendre la place de Dieu. Hein. Est-ce qu'on est accro à l'approbation des autres? Est-ce qu'on est accro à la sexualité? Au sexe en dehors du mariage? À l'adultère? Est-ce qu'on est accro au travail, au mensonge? Est-ce qu'on est accro au sport? On peut être accro à tellement de choses. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Et dans quoi est-ce que tu te complais exactement? Si on tient à notre vie, eh bien, il y a une seule réponse qui s'impose, c'est cette réponse radicale de Jésus qui est sans demi-mesure, hein, coupée et jetée. Alors si ce matin, tu sais qu'il y a besoin d'agir dans ta vie, et si tu as besoin d'aide, mais si tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien, repars pas sans en avoir parlé avec quelqu'un. Je ne suis pas le seul avec qui tu peux en parler, bien entendu. Non pas pour te juger et te prendre de haut, mais plutôt pour qu'on puisse s'encourager mutuellement dans les luttes qui nous sont propres. Il faut être radical. Et je voudrais aussi vous dire que bien, vivre avec Christ, ça compense toutes les pertes. Ça compense toutes les pertes qu'on peut faire pour lui. Paul disait qu'il avait en quelque sorte tout mis à la poubelle de sa vie pour gagner Christ et qu'il en était heureux, infiniment heureux. Vivre avec Christ, ça nous libère de ces idoles qui nous tiennent en esclavage. Parce que Christ, il veut notre bien. C'est lui qui nous a créés et on peut lui faire confiance, il sait ce qui est bon pour nous, à notre place. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et pour bénéficier de ce salut, il nous demande une chose, venir à lui. Et c'est vrai, ça a un coût. Ça a un coût de venir à Jésus. Ce coût, il nous l'a dit déjà à plusieurs reprises, renoncer à soi-même. Nous repentir, nous détourner de nos idoles et nous tourner vers lui pour lui faire confiance. J'ai conscience que ça peut être extrêmement dur, ce que Jésus nous dit et ce que je vous raconte également ce matin. Sachez que je me prêche à moi-même avant de vous prêcher à vous, quand je prépare ce type de message. Quelques mots de conclusion. Deux changements auxquels Jésus nous convie ce matin. Il nous convie surtout de renoncer aux faux combats que l'on mène. Faux combats que l'on mène contre nous-mêmes ici en interne, et en externe aussi, peut-être contre les autres églises, contre plein de choses. Renoncer à ces faux combats. Pour faire quoi? Pour nous engager dans le seul combat qui compte vraiment, contre nous-mêmes. Le combat contre notre propre péché, nos propres défaillances, nos propres faiblesses. Il y aurait de quoi sortir un peu désespéré d'une telle prédication, d'un tel message de Jésus. Mais souvenez-vous que on n'en est pas à la fin de l'évangile de Marc. On n'en est pas à la fin de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi parle-t-on de bonne nouvelle ? Parce que Jésus connaît notre faiblesse. Il sait que sans lui, on n'y arrivera pas. On n'a aucune chance de réussir ça si nous n'avons pas Jésus dans notre vie. Et Jésus, il est intervenu de deux façons pour nous aider. Oups. Merci. Deux interventions de Jésus. La première, la croix, bien entendu. À la croix, Jésus qui a payé pour nos fautes. Il a payé pour nous obtenir le pardon total de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons et de ce que nous ferons encore de mal dans les jours à venir. Il a payé pour nous. Et la deuxième intervention de Jésus, c'est que quand il est remonté auprès du Père, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé l'Esprit avec le Père. Cet Esprit qui renouvelle nos forces, cet Esprit qui fait qu'on est capable de discerner le mal qui est en nous, et il nous donne des forces pour nous aider à y renoncer, jour après jour. Le Seigneur renouvelle nos forces. Et si on se réunit aussi le dimanche, c'est aussi parce qu'on s'encourage mutuellement. C'est pour remonter les batteries spirituelles de notre âme, pour qu'on tienne le coup pendant tout le reste de la semaine. Venez au culte. Encouragez-vous mutuellement. On est là pour ça. Pour s'aider mutuellement. C'est ce que l'Esprit utilise aussi, la vie d'Église, la confrontation les uns avec les autres. Le Seigneur et son Esprit utilisent les autres. Il utilise l'Église pour nous aider mutuellement dans notre lutte contre le mal qui est en nous. Et je dirais que si tu sens toutes ces tensions en toi ce matin, eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que l'Esprit, il travaille en toi. Et il te donne envie de renoncer à tes péchés. Le Seigneur veut t'affranchir de tout ce qui t'enchaîne et il veut t'aider à mener une vie qui plaît à Dieu. Amen.